Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique.
7h42, bienvenue, et c'est le petit déjeuner politique d'Olivier Dussopt, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics.
Bonjour Olivier Dussopt.
Bonjour.
Les nouvelles scènes de violence ce week-end, à qui est-ce que vous les attribuez-vous? Des gilets jaunes ou des casseurs?
À tous. À tous ceux qui ont manifesté, à tous ceux qui s'en sont pris aux policiers, à tous ceux qui s'en sont pris aux pompiers. Quand on manifeste, c'est un droit en France. Et on a la chance extraordinaire de vivre dans un pays droit.
Oui, mais quand on manifeste, on n'est pas tous forcément casseurs. Non, donc vous mettez sur un pied d'égalité les gilets jaunes et les casseurs.
Quand on manifeste et qu'il y a de la casse, on s'éloigne.
Oui.
Quand on reste dans les incidents, quand on reste dans les violences.
Oui, mais
quand on empêche les pompiers d'approcher des incendies, quelle que soit la raison pour laquelle on est présent, on devient complice de tout cela. Et donc la seule réponse qu'on peut apporter, c'est une réponse d'autorité, une réponse de maintien de l'ordre, une réponse de protection des biens et des personnes.
Oui, bon, mais quand même, alors vous ne faites pas de distinction entre des gens qui peuvent perturber des manifestants qui, a priori, dans un premier temps, disaient que c'était plutôt pacifiste.
Mais quoi, je sais qu'il y a des hommes et des femmes dans ce pays qui ont des raisons de manifester, ou en tout cas qui ont des motivations qui leur sont personnelles, ça se respecte. Il faut respecter les revendications, il faut respecter les attentes, mais il ne faut pas accepter la violence.
Oui. Oui. Bon, et cela dit, place d'Italie, je ne sais pas si c'était le meilleur choix en fait pour les rassembler, parce qu'il y avait quand même beaucoup de chantiers sur place. Ils ont été muselés après, oui, là-bas. Hein, on les a encerclés en quelque sorte.
La question n'est pas l'endroit, la question c'est le comportement.
Bah si, aussi, quand même, non.
La question n'est pas l'endroit, c'est le comportement. Et quand on est là pour casser, quel que soit l'endroit, on est là pour casser. Et
tout le monde n'était pas là. Non, mais Olivier Dussopt, à vous écouter, on a l'impression que tout le monde qui était place d'Italie était là pour casser.
Les images de place d'Italie étaient quand même...
Oui,
sans pareil.
Oui.
Et je le répète, il y a des hommes et des femmes qui veulent manifester, c'est un droit constitutionnel, il est respecté. Mais quand il y a de la casse, on condamne la casse. On n'empêche pas les pompiers d'intervenir.
Alors revenons-en quand même aussi sur les réponses. Il y a eu les 17 milliards depuis un an, mais les plus pauvres, ceux qui ne payent pas notamment d'impôts, disent qu'ils ne bénéficient pas de l'argent qui a été mis sur la table et qu'ils ont le sentiment, il y a ce sentiment qu'il y a toujours une fracture qui est présente.
Je crois que les réponses qui ont été apportées sont des réponses d'ampleur et qui couvrent tous les champs de la société. Il y a une baisse de l'impôt sur le revenu à hauteur de 5 milliards d'euros. Effectivement, elle bénéficie à ceux qui payent des impôts, à ceux qui travaillent, qui ont ce revenu juste au moment où on commence à gagner suffisamment pour payer des impôts, où ça devient difficile. Il y a la baisse de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation a baissé d'un deuxième tiers pour 80% des Français lors du mois d'octobre, et l'année prochaine, 80% des Français ne paieront plus de taxe d'habitation. Et en 2023, plus aucun Français ne paiera de taxe d'habitation. Il y a l'augmentation de la prime d'activité. La prime d'activité, elle est justement faite pour ceux qui... ont un revenu autour du SMIC un petit peu plus, qui ne payent pas forcément d'impôts, mais qui sont à la limite et qui ont du mal à s'en sortir. Il faut avoir en tête qu'en 2016, la prime d'activité, ça représentait dans le budget de l'État 4 milliards d'euros. Cette année, en 2019, ça représente 9 milliards d'euros. Ce sont plus de 4 millions de Français qui ont accès à la prime d'activité, avec une augmentation, puisque c'était notre volonté, la décision du président de la République, de 90 euros par mois. Ça avait été annoncé le 10 décembre. Et ça marche. Ça marche pour le privé. Ça marche pour le public.
Oui.
Et puis, permettez-moi juste de l'ajouter.
Oui, allez-y, Olivier Dussopt.
Tous les champs de la société. Je pense aussi à ceux qui ont le moins. Je pense notamment aux retraités qui ont des toutes petites retraites, qui sont à ce qu'on appelle le minimum vieillesse. C'était l'ancien nom. Nous augmentons le minimum vieillesse de 100 euros par mois. Ça n'a jamais été fait. Absolument jamais. De la même manière que nous augmentons l'allocation adulte handicapé de 100 euros par mois. Et cet engagement sera tenu tout début 2020 pour la dernière tranche d'augmentation. Ça n'a jamais été fait non plus.
Oui. Alors, mais pourquoi il y a cette initiative des centristes qui veulent organiser une conférence sociale, Olivier Dussopt, et notamment sur les salaires avant le 5 décembre? C'est-à-dire qu'il y a quand même encore un problème.
Je crois que tout le monde cherche des solutions, tout le monde cherche des clés pour que le dialogue social dans ce pays, que les réformes puissent avancer et que les choses se passent mieux. Les centristes, comme vous les appelez, ont eu cette initiative. Cela rejoint d'une certaine manière ce que le Premier ministre a prévu de faire sur le champ notamment des retraites, puisqu'il doit rencontrer à nouveau les partenaires sociaux.
Mais sur cette initiative, vous dites banco, pourquoi pas, c'est une bonne idée?
Ce n'est pas à moi d'en décider.
Vous êtes au gouvernement, vous êtes bien placé quand même.
Ce n'est quand même pas à moi d'en décider, et ça revient évidemment au Premier ministre, mais à titre personnel, je ne sais pas si les réponses sont dans des sommets, dans des conférences, ou si elles sont dans des actions. Je crois plus à l'action en général, et je le répète, quand on parle salaire, je l'entends, nous avons pris des initiatives. Ça ne relève pas directement du salaire, mais j'ai évoqué la prime d'activité. Nous reconduisons en 2020 ce qu'on appelle la prime exceptionnelle. Certains disent la prime Emmanuel Macron, mais à une condition, c'est que ça se passe dans le cadre d'un accord d'intéressement, parce que nous considérons que le partage des richesses et des valeurs créées dans l'entreprise est un point qui est extrêmement important. Les élus centristes, par leur tribune, encourage à plus de dialogue. Dès lors qu'il y a plus de dialogue, on ne peut que souscrire.
Non mais c'est ça, il y en a besoin avant le 5 décembre, notamment...
Avant et après.
Oui, avant et après, bien sûr, mais aussi que... avant peut-être le 5 décembre, avec les syndicats, le patronat.
Je ne pense pas que la politique nationale doit s'arrêter à une seule date. Non. Il y a un 4, il y a un 6 décembre, il y a un avant, il y a un après. Il y a des choses que nous avons faites, il y a des choses que nous allons continuer à faire. Pour faire en sorte que les choses aillent mieux, c'est parfois difficile à percevoir dans le quotidien, mais l'année 2019 sera une année d'augmentation du pouvoir d'achat comme nous n'avons que rarement connu dans notre pays, avec plus de 2% d'augmentation du pouvoir d'achat en moyenne. Nous mettons en place de nouvelles politiques, je pense au reste à charge zéro en matière de prothèses auditives, de prothèses dentaires, pour mieux accompagner les Françaises et les Français, leur permettre l'accès à ces services. Nous travaillons sur les questions d'éducation. Il y a un avant, il y a un après, et surtout il y a une continuité. Et cette continuité, c'est de continuer... et de faire en sorte que le programme du président de la République
et puis que
soit
ça,
intégralement appliqué.
Et que ça se ressente auprès des Français, parce que visiblement, ce n'est pas encore ressenti auprès de tout le monde. L'idée d'une taxe carbone, là, juste prônée par certaines ONG, notamment aussi Priscilla Ludowski, figure des Gilets jaunes qui était là, est-ce que c'est une solution, l'idée d'une taxe carbone qui irait ensuite aux plus pauvres?
Mais je vous rappelle que c'est... la taxe carbone qui a mis le feu aux poudres.
Oui,
mais
c'était pas destiné en fait aux plus pauvres. C'était destiné avant tout à Bercy pour essayer en fait d'éponger la dette quand même.
Enfin, si vous me permettez.
Non, mais il faut dire les choses quand même.
On a aussi le droit de les dire avec justesse et sans caricature. La taxe carbone, elle est destinée à financer la transition énergétique et la transition écologique. Aujourd'hui, on le voit.
Attendez. C'était pas tout à fait. Alors, c'est ce qui avait été annoncé, mais on l'a vu à travers des mails. C'était pas vraiment ce qui avait été
présenté. Vous n'allez pas m'apprendre ce qu'il y a dans le budget de la France. Oui. On a un compte d'affectation spéciale sur la transition écologique.
D'accord.
Et tout ce que nous avons prélevé jusqu'à aujourd'hui en taxe carbone, en fiscalité écologique, sert à financer aussi la transition écologique. Je donnais des chiffres tout à l'heure. Sur l'année 2019, nous avons dû ajouter, et la loi de finances rectificative pour le faire est en cours de discussion. Nous devons ajouter 300 millions d'euros à un budget qui était déjà de 600 millions, donc on passe à 900 millions, pour financer des primes à la conversion automobile, pour permettre et aider les Français qui veulent acheter des véhicules moins polluants. Nous travaillons sur les isolations de bâtiments, sur les économies d'énergie. Tout ça, c'est de la transition et tout ça profite à
toutes
les catégories
de Français. C'est une bonne idée, le déplafonnement donc, du malus pour les voitures les plus polluantes.
C'est une des pistes et nous avons déjà commencé depuis le 1er août à limiter... non pas à déplafonner le malus, mais nous avons limité le bonus.
Là, c'est ce qui est envisagé.
Et une piste de travail que nous partageons avec Bruno Le Maire.
Oui.
Mais depuis le 1er août, nous avons fait en sorte de supprimer le bonus pour les plus grosses cylindrées et les voitures les plus chères. Nous considérons que lorsque un ménage a les moyens de s'acheter, par exemple, une Jaguar électrique à 70 000 ou 80 000 euros,
il n'y en a pas beaucoup, mais bon...
Il n'y en a pas beaucoup, mais
c'est plutôt rare.
Ceux-ci n'ont pas nécessairement besoin d'une prime de 3 000 ou 4 000 euros.
Oui.
Et bout à bout, ça fait quelques dizaines de millions d'euros d'économies.
Oui, en revanche, pour le diesel, c'est pas concerné par ce déplafonnement du malus.
Non, on fait attention, y compris pour accompagner les secteurs d'activité.
Oui,
Et je le répète, ça fait partie des pistes sur lesquelles nous travaillons.
Oui. Dites-moi, Olivier Dussopt, vous avez en charge notamment la fonction publique, qui sera fortement mobilisée le 5 décembre. Vous redoutez justement une paralysie ou pas?
Le 5 décembre sera un mouvement de grève qu'on nous annonce important. Nous verrons le 5 sur la question des retraites. Il y a des réponses qui ont été apportées, que nous allons continuer à répéter, notamment sur la question de la fonction publique. Je pense aux enseignants. Le ministre de l'Éducation leur a écrit la semaine dernière pour expliquer que la réforme des retraites telle qu'elle était proposée dans ses grands axes, puisque la concertation est encore en cours, par Jean-Paul Delevoye, devrait s'accompagner, si elle était mise en œuvre ainsi, de mesures de compensation dans le temps, puisque cette réforme a vocation à se mettre en œuvre progressivement, pour faire en sorte que les enseignants qui, par rapport à d'autres agents publics, sont parmi ceux qui ont le moins de primes, ne soient pas perdants au système. Et donc, il faut travailler à cela.
Ça va représenter 13 milliards, j'ai vu, d'euros, c'est ça?
Oui, c'est un chiffre qui est totalement faux.
Ah, c'est bon, d'accord. Voilà. Oui. Quel fourchette? Parce que moi, c'est ce que j'ai lu. Hein, donc, donnez-nous des précisions, Olivier Dussopt.
Le chiffre est d'autant plus faux qu'il n'est pas arrêté.
Oui.
Il n'est pas arrêté pour une raison simple, c'est que la concertation est en cours et le chiffre sera arrêté lorsqu'on connaîtra les arbitrages terminaux définitifs.
Oui.
Par contre, le chiffre que vous avez évoqué de 13 milliards d'euros, c'est quelqu'un qui s'est, entre guillemets, amusé, mais le terme n'est pas le bon, à regarder combien il faudrait augmenter telle ou telle masse salariale en une seule fois, comme si la réforme se mettait en place de manière brutale et en une seule fois. Alors que nous sommes sur une réforme différente, avec trois temps de calendrier après la concertation. Un premier temps qui fixera dans une loi cadre les principes du nouveau système universel et les principes de la transition. Ensuite, un temps pour voir comment nous amenons chacun des 42 régimes spéciaux vers ce modèle universel avec une transition au rythme de chacun, oui. Et ensuite un troisième temps de validation de l'ensemble.
Vous avez quand même une idée d'une une fourchette, quoi, non, sur cette compensation ça pour les salaires des professeurs, à peu près une fourchette.
Hein. Ça dépend tellement des arbitrages et du rythme qu'il est compliqué de donner une fourchette. Nous parlons évidemment.
Ah bon, vous avez pas une idée quand même.
Nous parlons évidemment de milliards.
Vous avez une idée. Non, attendez, Olivier Dussopt, vous avez une idée.
Nous parlons évidemment de milliards d'euros,
oui.
Puisque nous sommes, lorsque nous parlons des enseignants, nous parlons d'environ 850 000 enseignants, donc avec une masse salariale qui est
5-6 milliards alors, la moitié, non.
Je ne sais pas si ça se compte comme ça, mais ça se compte dans le temps, puisque je l'ai dit, la transition sera progressive, peut-être sur 15 ans, peut-être sur 20 ans.
Dites-moi, où en est-on de la promesse d'Emmanuel Macron de la suppression de 120 000 postes dans la fonction publique?
Cette suppression de 120 000 postes qui avait été annoncée pendant la campagne se répartissait en deux catégories. 70 000 dans les collectivités locales. Ça peut être tenu, puisque les collectivités font des efforts, non pas pour diminuer globalement leurs dépenses, mais pour freiner l'augmentation. Et lorsqu'elles freinent l'augmentation comme elles le font, ça se traduit par des suppressions de postes, des non-remplacements de départ à la retraite, ça peut être tenu. Pour l'État, nous l'avons dit, nous l'avons inscrit dans les différents documents budgétaires, nous ne serons pas à 50 000 suppressions. Nous allons supprimer 27 000 équivalents temps plein. Nous allons en créer 16 000 dans des domaines prioritaires comme la sécurité, parce que ça fait partie des attentes. Et donc, au final, l'équilibre sera plutôt à moins 11, moins 12 000. Pourquoi est-ce que nous faisons ça par rapport aux 50 000? Parce qu'il y a eu un grand débat. Et que dans ce grand débat, le président de la République et le gouvernement ont entendu la demande de proximité. Et à la fin du grand débat, c'était le 25 avril, le président a pris l'engagement de ne pas fermer d'école, de ne pas fermer d'hôpitaux.
Est-ce qu'il ne pouvait pas y avoir un redéploiement plutôt, non? C'était pas possible.
Nous faisons aussi du redéploiement.
Oui, oui.
Alors ça... aussi du redéploiement.
Oui, oui, oui. Bah, d'ailleurs, il y a 6000 fonctionnaires parisiens, c'est ça qui vont être déployés en région?
Exactement, l'objectif...
Quand ça? C'est quand, là, hein?
Entre le 1er janvier et 2022.
Oui.
Nous allons le faire sur la base du volontariat d'abord, nous allons le faire sur les nouvelles affectations en sortie d'école de service public.
Oui.
L'objectif que nous avons... Nous avons identifié à peu près 6 000 emplois, dont presque la moitié au ministère de l'Action des Comptes Publics à Bercy. C'est de faire en sorte que des services, non pas des agents, mais des services qui ne reçoivent pas de public, qui font l'instruction de dossiers, de l'administratif, ce qu'on appelle parfois en bon français du back-office, puissent être installés dans des zones rurales ou périurbaines. Parce que lorsqu'on installe dans une ville de 10 000, 15 000 habitants, une cinquantaine d'emplois au centre-ville, on participe aussi à la redynamisation.
Et ils vont bénéficier de primes, hein, ces gens-là.
Ça sera accompagné, mais c'était déjà le cas lorsque un agent public voit son service réorganisé, il est accompagné, c'est normal.
Un mot du congrès des maires qui s'ouvre, qui a lieu cette semaine. Vous y allez, vous, jeudi.
En fin de semaine,
Qu'en est-il de la suppression de la taxe d'habitation? Parce que ça donne encore des sueurs froides en fait, à certains maires qui ne voient pas toute la compensation.
La taxe d'habitation est supprimée progressivement, je l'ai dit, et les maires constatent aujourd'hui que cette suppression ne se traduit par aucune baisse de leur fiscalité, puisqu'ils perçoivent la fiscalité tous les mois, par 12e, et ils ont vu que le dégrèvement progressif ne faisait pas bouger cela.
Mais alors qu'est-ce que vous allez leur dire jeudi, finalement? Vous n'avez plus rien à leur dire?
Ce que je vais leur dire jeudi, c'est qu'à partir de 2021, il y aura un nouveau modèle de financement des collectivités. Les communes ne toucheront plus la taxe d'habitation. À la place, elles toucheront la taxe foncière que les départements perçoivent aujourd'hui. Et les départements percevront une partie de la TVA perçue par l'État, et une partie dont l'État va se délester, puisqu'il est évidemment hors de question d'augmenter la TVA. Nous avons pris trois engagements, que la compensation soit intégrale, elle le sera à l'euro près, qu'elle soit dynamique, qu'elle tienne compte de l'évolution des bases, ça sera le cas, et qu'elle soit pérenne, c'est-à-dire que ce ne soit pas des dotations ou des allocations, comme ça a toujours été le cas, parce qu'au bout de 2-3 ans, ça finit par baisser, que ce soit de la fiscalité, ça sera le cas aussi. Et donc c'est un engagement tenu, et que je répéterai jeudi devant le Congrès des maires.
Oui, le mot de la fin, Olivier Dussopt, avec Cécile de Ménibus.
Je reviens sur la déclaration de Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, qui prône une tolérance zéro, c'est-à-dire que zéro gramme dans le sang pour toute personne qui prendrait le volant pour lutter contre toute forme d'addiction. Est-ce que ce n'est pas un peu radical?
Ça a été fait par de nombreux pays, de très nombreux pays qui ont mis en place cette tolérance zéro et qui souhaitent que pas un verre ne soit autorisé pour les conducteurs. Je ne sais pas si c'est radical, je pense que l'essentiel c'est d'avoir des résultats. Nous avons commencé à en avoir, pas que nous, les gouvernements précédents. Et la lutte contre les accidents de la route, puisque c'est cela qui est visé, est une priorité. La proposition ou l'idée évoquée par Didier Guillaume fait partie des pistes de travail, des pistes de réflexion. Ça n'est pas arrêté aujourd'hui, mais ça fait partie des pistes comme d'autres pays l'ont déjà fait.
Merci beaucoup.
Plus un seul verre d'alcool. Donc même un verre de vin. Non, mais quand vous allez à la foire en Ardèche, par exemple, chez vous, etc., il faudra faire attention.
Même pas de sirop pour la toux.
Je répète, ça n'est pas arbitré, ça n'est pas décidé. Donc il faut l'avoir en tête. Mais pour répondre à votre question, si c'était le cas, Oui. Et comme c'est le cas dans d'autres pays, il faudra faire attention.
Ça va faire grogner encore.
Hein. Oui. Je pense que si c'est décidé, ça ne sera pas facile. Mais de la même, vous savez, toutes les mesures en matière de sécurité routière, depuis les premières mesures importantes prises par Jacques Chirac notamment, on fait grogner. J'ai en tête, parce que mon âge me le permet, le moment où on a obligé les gens à mettre leur ceinture de sécurité à l'arrière. Oui. Même ça, ça faisait râler.
Oui. Merci Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui était l'invité de Sud Radio ce matin.
Restez avec nous dans un instant. Le directeur de la communication de Enedis sera avec nous pour parler des foyers qui sont encore privés d'électricité ce matin. Il est 7h58, c'est le Grand Matin Sud Radio.